Lisons ensemble. Jean chapitre 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus est confronté à une situation qui est difficile, elle n'est vraiment pas aisée, un chemin par lequel il devait passer, parce qu'il est venu pour cela, pour offrir sa vie, pour nous sauver, et cette coupe, il devait la boire. S'il ne l'avait pas bu, nous ne serions pas là ce matin ayant en nous l'espérance de la vie éternelle. Il fallait qu'il boive cette coupe. Et ceux à qui il est confronté ne savent pas ou ne comprennent pas qui est Jésus et ce qu'il est en train de faire. Alors, ils l'ont envoyé au gouverneur romain Ponce Pilate. Et dans cet échange que Pilate a avec lui, il finit par lui poser cette question parce qu'il dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Et Pilate de répondre « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Peut-être que ce matin, quelqu'un est là et la personne se pose la question, quand bien même la personne se trouve ici, elle se pose la question « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Avez-vous peut-être déjà essayé dans le bouddhisme ou avez-vous été vers les adeptes de l'hindouisme ou peut-être étiez-vous musulman et vous vous posez toujours la même question « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Parce que vous ne la trouvez pas. Pilate ne savait pas que celui à qui il parlait, c'est lui la vérité. Par Jésus a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'est pas possible d'accéder à la vie éternelle, car le Père siège dans les lieux très hauts, El Elyon, et pour y accéder, il faut passer par Jésus. Qu'est-ce que la vérité ? C'est le Christ, roi Jésus. C'est lui la vérité. Pilate ne le savait pas et quand Jésus, des fois, veut se manifester à beaucoup de personnes, ici-bas, de diverses manières, car Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, il utilise plusieurs types de manières pour s'adresser à nous. Et des fois, les gens à qui il s'adresse continuent à poser cette question, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Jésus était venu pour faire une chose nouvelle dans la vie des hommes. Il ne la comprenait pas encore. Une chose nouvelle était en train de s'accomplir, là, sur la terre des vivants que Dieu a créée. Et Dieu veut faire une chose nouvelle dans la vie de beaucoup de personnes. de celles qui ne connaissent pas encore Christ et qui seraient là ce matin, ou de celles même qui connaissent Jésus, qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur, mais qui se disent « Mais depuis que j'ai accepté Jésus, rien ne change dans ma vie. Tout est toujours pareil. » Comme certaines personnes disent, depuis qu'il nous annonce le retour du Christ, tout est toujours pareil. Et même des chrétiens disent « Mais j'ai accepté Jésus, mais tout est toujours pareil dans ma vie. Je ne vois pas la différence. » Jésus veut faire une chose nouvelle aujourd'hui, dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église qui lui appartient, qui est son corps. Christ veut faire une chose nouvelle. C'est le titre de mon message, « Une chose nouvelle ». Il en est temps, une chose nouvelle, pour sortir des habitudes, du train-train quotidien, d'une vie spirituelle qui ne montre pas la gloire de Dieu. Dieu veut faire une chose nouvelle dans la vie de son Église. Et lorsque Dieu veut faire une chose nouvelle, mais quand bien même cela vient de lui, cela peut faire peur. Cela peut faire peur même aux enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des enfants de Dieu concernant les dons spirituels. Ça leur fait peur. Ils ont peur de la manifestation des dons spirituels. Ils n'en veulent pas. Ils appréhendent cela. Pourtant, c'est la manifestation de la gloire divine et de la présence de Dieu au milieu des hommes par l'Esprit Saint qui est venu. Et pourtant, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de cette chose nouvelle. Et ils demeurent à l'étape primaire où ils ont rencontré le Christ, et ils sont restés là, stabilisés là, ils n'ont pas bougé, ils n'avancent pas, ils n'acceptent pas que Dieu fasse une chose nouvelle dans leur vie. Apocalypse 21, 5, 8 nous dit, « C'est un homme de Dieu, apôtre, qui était âgé, retenu dans l'île de Patmos, parce qu'il annonçait l'Évangile et qu'il servait son Créateur. Il était prisonnier, mais vous savez que dans le désert, c'est là aussi que Dieu peut se révéler à nous, souvent, en nous donnant de grandes révélations, de grandes compréhensions de ce qu'il attend de nous. Et il peut nous donner des choses extraordinaires à annoncer. Et c'est là qu'il a reçu donc le livre de la révélation. L'Apocalypse, qui s'appelle dans notre Bible l'Apocalypse, c'est la révélation. Jean, apôtre Jean, il a eu de grandes révélations, de grandes visions. À un moment donné, il dit... Le ciel et la terre que nous connaissions avaient disparu. La mer avait disparu. Et je voyais descendre sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et là, je lis pour vous dans Apocalypse 21, 5, 8. Celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire le Dieu de gloire que nous glorifions et louons ce matin qui s'est manifesté. Le Dieu de gloire assis sur son trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelle. Même Dieu, dans son programme, dans son plan divin, à un moment donné, il a prévu de faire toute chose nouvelle. S'il a prévu ça, c'est parce que c'est essentiel. C'est parce que c'est nécessaire. S'il n'avait pas besoin de faire toute chose nouvelle, il ne l'aurait pas fait. Et dans nos vies, s'il veut faire des choses nouvelles, c'est parce que c'est nécessaire. C'est utile. Je fais toute chose nouvelle. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. De quelles choses héritera celui qui vaincra? Des choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, qui ne veulent pas les choses nouvelles, et même des enfants de Dieu qui finissent par se perdre, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que l'on veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, qu'on contredise Dieu ou qu'on soit d'accord avec lui, cela se fera. Ceux qui n'en veulent pas, leur fin sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. que nous soyons de ceux qui veulent que Dieu fasse dans nos vies des choses nouvelles. Il veut nous prendre d'une dimension spirituelle où nous sommes restés assis pour nous emmener dans une nouvelle dimension, d'une nouvelle onction, là où sa gloire pourra se manifester librement en chacun de nous. Et là où là, sa gloire sera vue dans son Église. Lorsque nous avons rencontré Christ, la première fois, il y a une réalité spirituelle qui s'est passée dans notre vie. Nous sommes passés d'un état à un autre. Et dans les lieux célestes, sur le registre divin, notre nom a été inscrit. Parce que 2 Corinthiens 5, 17, 19 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Quelque chose donc a changé dans notre identité à ce moment où nous avons rencontré Christ. Cette personne qui rencontre Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui condamnait cette personne, tout ce sur quoi le diable pouvait pointer son doigt pour dire « lui, il mérite d'être perdu ». Regarde, Jésus dit « j'ai effacé ». Il m'a reçu, c'est moi qui le justifie. Mon sang efface ses péchés. Amen. Il est devenu une nouvelle, elle est devenue une nouvelle créature en moi. Tu ne peux plus le condamner. Et nous étions heureux et nous sommes heureux. Alléluia. Désormais d'avoir cette nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et effectivement, cela vient de Dieu, non pas de nous. Il y a des choses que nous ne pourrons pas changer de nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui pourra les changer pour nous. Et quand Dieu veut les faire, nous devons être réceptifs pour accepter ce que Dieu veut faire dans nos vies. Cela vient de Dieu, pas de nous. Il y a des choses que nous ferons pour changer les circonstances de nos vies. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. C'est Dieu seul qui pourra le faire. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il était en train de nous réconcilier avec lui en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et en Christ, nous avons reçu donc le ministère donc de la réconciliation. Alors, pour que ces choses nouvelles puissent se réaliser dans nos vies, une des premières conditions à faire, et cela nous est rappelé ce matin, parce que bien des chrétiens finissent par ne plus croire que le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ seul. Il y en a certains qui finissent par ne plus croire cela. Et ils imaginent leur propre évangile et continuent à suivre, ils commencent et continuent des fois à suivre leur propre évangile, leur propre parole inspirée. Ils mettent ce livre-là de côté et commencent à suivre leur propre évangile, tout en adorant et en glorifiant Jésus. Première condition, ne pas adorer et ne pas donner gloire à autre chose qu'à Dieu. Si on commence à adorer autre chose que Dieu, quand Dieu veut faire des choses nouvelles dans nos vies, il va trouver une barrière entre lui et nous, parce que nous commençons à donner sa gloire à autre chose. Quand Dieu a choisi le peuple d'Israël et que Moïse leur a donné toutes les lois, les commandements, les exigences de Dieu, Dieu a dit « Je vous choisis, vous êtes mon peuple ». Exode 20, 1, 3, il dit ainsi « Je suis 20, 1 à 3, oui, mais je lis à partir du verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude ». Et Dieu peut le dire à chacun d'entre nous, car nous aussi, avant de connaître Christ, nous étions dans une maison de servitude. Liés par le diable, dans les mensonges, la tromperie, la fausseté, dans l'égarement, dans les ténèbres, liés dans une maison de servitude. Et Dieu leur rappelle cela. C'est pour ça qu'il est bon. Et Dieu et le Saint-Esprit nous le rappellent sans cesse. Souviens-toi, je suis venu à ton secours. Je t'ai fait sortir de la maison de servitude. Il fallait que le peuple d'Israël s'en rappelle. Et Dieu nous le rappelle à nous aussi. Souviens-toi d'où je t'ai sorti. Une sœur priait tout à l'heure et elle dit, je me souviens d'où tu m'as sorti. elle était dans une maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'en auras pas d'autre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas d'autre, tout simplement. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, on ne peut pas, si on dit qu'on adore Dieu, avoir autre chose qui soit élevé comme Dieu dans nos vies. Ce n'est pas possible. Pour que les choses nouvelles de Dieu se fassent dans nos vies, donc, nous devons ne point donner ni la gloire ni l'honneur à autre chose qui n'est pas Dieu. Un homme de Dieu aussi connu, qui était un prophète de Dieu en Israël, un jour il va s'adresser à tout un peuple, c'était le prophète Élie. Il s'adressait à son peuple à un moment trouble de la vie de l'histoire d'Israël, surtout que à cette époque, le pays était scindé en deux et dans le royaume du Nord, au moment où ce prophète Élie est en train de s'adresser au peuple, il y a un roi qui s'appelle Akab. Il fut l'un des plus mauvais rois d'Israël, Akab. Et pour ne pas faciliter les choses, sa femme s'appelait Jézabel. Elle n'était pas du royaume de Dieu. Et elle va emmener en Israël et elle va emmener à son mari l'adoration et la célébration de Baal et d'Astarté. Elle va combattre le peuple d'Israël. Elle va chercher à tuer le prophète Élie et à tuer les prophètes de Dieu. Elle va pousser son mari à voler la vigne d'un homme, Naboth, et de tuer cet homme. C'était un temps trouble en Israël à ce moment. Et à un moment donné, où le prophète demande à Akab, ce roi, d'appeler tout le peuple parce qu'il va y avoir une confrontation entre Dieu et Astarté et Baal. Et des fois, Dieu va créer des circonstances pour nous confronter à des réalités pour que nous puissions reconnaître, mais finalement, en qui tu crois vraiment ? Est-ce que tu crois dans le Dieu qui tient entre ses mains l'univers tout entier ou est-ce que tu crois en autre chose ? Là, il y allait y avoir une confrontation sur le mont Carmel, en Israël. Le peuple est là. Et c'est pour cela que, malheureusement, il peut y avoir dans nos vies des mauvaises influences. Des mauvaises influences, justement, qui nous poussent à ne pas adorer le vrai Dieu, à le délaisser, à lui être infidèle, à commettre, dans ce que Dieu appelle, d'un point de vue spirituel, un adultère. L'adultère spirituel, c'est quand on est infidèle à Dieu. Parce qu'on donne la gloire à autre chose qui n'est pas Dieu. On devient des adultères spirituels. Nous ne voulons pas être des adultères. Nous voulons être des hommes et des femmes fidèles en qui Dieu prend plaisir. Amen. Seigneur, aide-nous. Dieu a tout fait pour nous, tout. Christ a dit, tout est accompli. Tout. Nous ne voulons pas être des infidèles. Nous ne voulons pas être des adultères spirituels. Et malheureusement, des fois, c'est le cas lorsque nous oublions que Dieu dit « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Si j'ai un ami qui commence à passer me voir tous les samedis soirs, il m'invite à aller boire un verre dans un bistrot et que je commence à prendre cette habitude à y aller avec lui, je commence à m'habituer à ça, à trouver que c'est bien. Et là, peut-être où je passais du temps avec ma famille ou avec Dieu, je commence le samedi soir à aller au bistrot avec lui. Je ne me rends même pas compte à quel moment j'ai commencé à délaisser Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour ça que l'apôtre Paul, aux Corinthiens, il leur rappelle ceci. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. L'évangile nous a été annoncé. C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il dit que cet évangile est salutaire uniquement si nous le retenons dans les termes de la vérité. que le Saint-Esprit est venu nous rappeler. C'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Jésus-Christ qui pardonne, c'est Jésus-Christ qui nous rachète, c'est Jésus-Christ qui a payé le prix de nos péchés, c'est Jésus-Christ qui guérit, c'est Jésus-Christ qui libère, c'est Jésus-Christ qui renvoie libre les captifs. Ce n'est pas autre chose. L'Évangile, c'est pas autre chose. Tout est fondé sur le Christ Jésus. Je vous rappelle cet Évangile. Retenez-le dans les termes dans lesquels vous l'avez reçu avec joie et vous y avez persévéré. Mais si vous commencez à vous détourner de cet Évangile, vous aurez cru en vain. 1 Corinthiens 15, 33, c'est ce que j'ai cité. Il dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il dit à ceux qui s'égarent, « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » À qui s'adressait-il? À des chrétiens, les chrétiens de Corinthe. Une communauté chrétienne au sein de laquelle il y avait une profusion des dons spirituels. Profusion de dons spirituels. Mais pourtant, quel scandale au sein de cette communauté. Quel désordre, quelle jalousie, quelle mésentente entre ces chrétiens. Et pourtant, il y avait une profusion de dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas la preuve que Dieu agrée tout ce que nous faisons. Rappelons-nous que Dieu sonde les reins et les cœurs. C'est ça qui l'intéresse. En nous, la partie de notre personne qui ira rencontrer Dieu pour vivre éternellement, c'est l'âme. Le corps retournera à la poussière, l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné et l'âme recevra ce revêtement spirituel et glorieux pour vivre éternellement. Et là, le prophète Élie arrive. Dans cette confrontation, il a fait appeler aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Et le peuple est là et il leur dit ceci maintenant, 1 Roi 18-21, et Dieu nous le rappelle. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il va dire, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui !» Et si Baal est Dieu, allez après lui. Et la Bible nous dit que le peuple ne répondit rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la confusion. Ils ne savaient même plus ce qu'ils devaient dire, ce qu'ils devaient faire. Finalement, est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu ou est-ce Baal et Astarté? Le peuple ne répondit rien. Or, Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu as dit oui à Jésus, tu lui as dit oui pour toute ta vie et pour l'éternité. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, faites ce que l'Éternel vous commande. Si c'est Baal que vous reconnaissez comme Dieu, suivez les instructions de Baal. Mais vous devez faire un choix. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous êtes obligés de choisir. Obligés. Parce qu'on ne peut pas, selon Matthieu 6, 24, servir deux maîtres. C'est impossible. Il y aura toujours un qui sera lésé par rapport à l'autre. Il y aura toujours un qui aura notre préférence. On doit choisir. Je choisis Dieu, je suis les instructions de Dieu et rien d'autre. Je ne veux pas choisir Dieu, c'est ma responsabilité. Mais Dieu continue à appeler encore. Et comme ce matin, il dit, si c'est moi que vous voulez servir, servez-moi. Dans la vérité des instructions bibliques que je vous ai laissées, et dans la conduite et la révélation que mon Saint-Esprit vous donne. Si vous voulez autre chose, Dieu a déjà tout fait pour nous, ce n'est pas de sa responsabilité. Nous sommes passés, bien-aimés, de la puissance du malin à la puissance de Dieu. Ce sont deux puissances, et ça, nous devons en être conscients. La Bible nous dit en 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Nous étions sous la puissance du malin. Et pour nous libérer de cette puissance, il fallait une puissance supérieure. Cette puissance supérieure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes passés de la puissance de Satan qui nous liait, nous faisait du mal, à la puissance du Christ. C'est pour cela que Christ nous dit, vous recevrez une puissance. Ça vient pas de nous, ça vient de lui. Mais il nous dit, je vous la donne cette puissance. C'est pour que ce malin qui vous malmenait ne puisse plus vous malmener. Que désormais ce soit vous qui ayez autorité sur lui. En mon nom, au nom souverain de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu veut faire une chose nouvelle dans son Église, une chose nouvelle dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il est dit que, effectivement, en 1 Jean 5, 20-21, je ne lis pas tout, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est que désormais, pour tous ceux qui sont dans le véritable, ils doivent réellement considérer la réalité de ce qu'est la vie chrétienne. C'est une réalité spirituelle, non pas une réalité charnelle. C'est une réalité spirituelle parce que c'est une guerre qui se combat avec les armes de Dieu. Et ces armes sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul exhortait Timothée, il lui disait en 1 Timothée 4:13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Christ a fait des dons à son Église. Tous les enfants de Dieu reçoivent de Dieu des dons et des capacités. Nous ne devons pas négliger ces dons et ces capacités. Nous devons les faire fructifier. C'est pour ça que Christ nous les a donnés, pour que nous soyons au service de l'humanité, pour arracher les âmes perdues des griffes du diable. Et il lui dit ceci au verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour passer d'une chose à une autre et pour que Dieu fasse dans nos vies des choses nouvelles, il faut qu'il y ait un progrès qui est évident. Mais si nous stagnons ou si nous peinons à marcher, ce que Dieu veut faire, il ne le fait pas. Il faut que nous progressions, il faut qu'il y ait du progrès, un progrès qui soit évident dans la vie de chacun de nous. Nous devons aussi désirer la nourriture solide qui nous aidera à nous attacher davantage justement à cette réalité de la vie spirituelle parce qu'elle est avant tout chrétienne. 1 Corinthiens 3, 1-4, Paul s'adressant toujours aux Corinthiens leur dit « Mais pour moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. » Et il le disait avec tristesse, avec désarroi. Il dit « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai parlé. » Il leur dit « Vous devriez être des hommes spirituels, mais je m'adresse encore à des hommes charnels. » Comme à des enfants en Christ. Et 1 Pierre 2:2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et Matthieu 5:14 nous dit « Mais la nourriture solide, il est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit fait de nous un temple pour Dieu. Et comme le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, Christ est en nous par son Esprit. Par le Saint-Esprit, aide-nous à discerner le bien du mal et à rejeter le mal et à retenir que le bien. Et ce n'est pas toujours facile, je vous assure. Surtout quand vous êtes des fois dans une circonstance où vous ne vous y attendiez pas et quelque chose vient pour vous bousculer. Pourtant, même quand bien même vous avez prié, Vous avez prié le matin, vous avez médité, vous étiez bien, médité la parole de Dieu, vous partiez au travail, vous étiez content. Et une chose est faite exprès, parce que l'ennemi nous guette. Il dit, sur ce point-là, je vais la voir. Là sortira de sa bouche des choses infâmes. Si je l'attaque de cette manière, je suis sûr qu'il sortira de sa bouche des choses mauvaises. Et il met en place sa stratégie, il nous attaque, quelque chose vient nous bousculer dans la colère et la chose sort de notre bouche. Une chose infâme qu'il n'a pas lieu de dire, une chose qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Apprends-nous à rejeter le mal et à n'en retenir que le bien. Alors ces hommes, est-il dit dans Jean 18, 28, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe, qui était le souverain sacrificateur. De chez Caïphe, ils le conduisirent au prétoire, là où se trouve Ponce Pilate. Regardez ce que la Bible dit. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Ils conduisent Jésus vers Ponce Pilate avec un objectif qui est précis pour eux. C'est qu'il meure, qu'il soit mis à mort. C'est ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas autre chose. Ils ne sont pas allés voir Ponce Pilate pour dire « emprisonne-le, allez, tu vas le torturer pendant un petit temps, tu vas le lâcher après ». Non, il faut qu'il meure. Ce que nous voulons, si nous te l'emmenons, c'est qu'il meure. Pourtant, ils sont en train de préparer la Pâque. La Pâque, c'était la fête et c'est la fête que Dieu a donnée à son peuple d'Israël. Quand Dieu dit « j'ai vu la souffrance de mon peuple », il envoie Moïse. Il dit « tu vas aller délivrer mon peuple car j'ai vu la souffrance de mon peuple ». Et quand Dieu vient pour les délivrer, Dieu va leur demander de prendre le sang d'un agneau qui représente Christ crucifié à la croix, de mettre sur les linteaux des portes, afin que lorsque l'ange exterminateur passerait au sein du peuple égyptien, que les maisons des Juifs ne soient pas touchées et que seuls les Égyptiens subissent les jugements de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu les a délivrés et Dieu les a emmenés. Dieu leur a donné une fête qui célébrait leur liberté, leur délivrance de ces 400 ans d'esclavage en Égypte. La Pâque. C'est ce qu'ils s'apprêtaient à fêter et la Bible dit, afin de ne pas se souiller, ils n'entrent même pas dans le prétoire, ils restent au loin, allez. Ils ne veulent pas se souiller parce qu'ils veulent bien faire les choses, pour célébrer la fête comme Dieu leur demande de la faire. Mais paradoxalement, celui qui sont en train de livrer, c'est lui qui est la Pâque. La véritable Pâque, c'est lui. Car la Pâque à laquelle eux, ils étaient encore attachés, cette Pâque-là commémorait la délivrance du peuple juif, mais cette Pâque-là ne pouvait pas enlever les péchés. Cette Pâque-là ne pouvait pas enlever les péchés, ne pouvait pas rendre la vie à celui qui était mort. Cette Pâque-là ne pouvait pas ouvrir les yeux des aveugles. Cette Pâque avait que nos buts, commémorer et rappeler qu'un jour vous étiez esclaves et que je suis venu vous délivrer, peuple d'Israël. Et cette Pâque préfigurait la véritable Pâque. Tandis qu'ils veulent fêter la Pâque en se gardant pur, ils ne veulent pas de celui qui est véritablement la Pâque qui libère. Jésus-Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, 7, 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est-à-dire afin que le vieil homme en vous meure, qu'il laisse la place désormais à mon esprit en vous qui doit régner. Afin que le vieil homme meure, que vous soyez une pâte nouvelle, vous êtes sans levain parce que la fête de la Pâque devait se célébrer avec des pains sans levain, parce que désormais en Christ, vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. L'autant, la véritable Pâque dont tout homme a besoin, qui seul efface les péchés, accorde la vie éternelle, donne accès au Père, à l'éternité, au royaume céleste, permet qu'il y ait des miracles, des prodiges, qui se réalise dans la vie des enfants de Dieu, la véritable Pâque, ils n'en voulaient pas. Ils étaient en train de le rejeter, de dire, cette Pâque-là, nous n'en voulons pas, parce qu'ils ne connaissaient pas qui était celui qu'ils étaient en train de condamner. Dieu était venu faire une chose nouvelle dans leur vie, mais ils étaient restés à la première étape. Ils étaient restés à la Pâque qui ne sauve pas, qui ne délivre pas, qui n'efface pas les péchés. Et la véritable Pâque, ils n'en voulaient pas. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Christ, notre Pâque, a été immolé. Et ils ont dit à celui-là, nous ne voulons pas de toi, toi qui es la vraie Pâque. Parce qu'ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Je vais terminer. Un homme, un jour, a reçu un secours extraordinaire de la part de Jésus-Christ. Et heureusement, parce que il y a tellement de souffrances dans ce monde, il y a tellement d'âmes qui sont liées. Nous n'imaginons pas la souffrance de beaucoup de personnes, même que nous côtoyons et même que nous connaissons à l'Église. Parce que dans leur vie, il y a encore des œuvres, des ténèbres qui les persécutent. Il y avait un homme dans le territoire des Géraséniens. Cet homme était persécuté parce qu'en lui, il y avait une légion de démons. Il ne vivait pas dans une maison, il vivait dans les sépulcres, dans les cimetières. Là où il y a la mort, on lui avait mis des chaînes aux pieds à plusieurs reprises. La puissance des démons en lui avait brisé ces chaînes. Personne ne savait quoi faire pour aider cet homme. Et même là où il résidait, dans les sépulcres, on évitait de passer par là parce qu'il faisait peur à tout le monde, c'est normal. Et Jésus arrive dans ce territoire et cet homme vient à lui. Il pousse des cris. Et je le lis pour vous, ils abordèrent, Luc 8, 26, 38, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint en devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Je passe sur tous les détails de ce que je vous ai dit, qu'on ne pouvait rien pour lui, qu'il cassait les chaînes, il les brisait. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, lorsqu'il est dit d'une voix forte, moi j'imagine, ce n'est pas l'intensité de la voix, mais c'était, vous voyez, comme qu'on voit dans les films d'horreur, une grosse voix. Qu'y a-t-il en te? Vous voyez, les voix. Moi je pense que c'est plus ça, la voix des démons en lui. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Voici une âme qui souffrait. Et combien d'âmes souffrent, même dans le royaume de Dieu, en ayant connu Christ, en étant à Christ, elles continuent à souffrir parce que dans leur vie, il y a des liens. Pourtant, Christ nous a donné la puissance pour déloger ces esprits de la vie des hommes et des femmes. Je vous ai donné le pouvoir. Vous recevrez une puissance au nom souverain de Jésus. Et naturellement, comme c'était Jésus, Dieu sur la terre, il va chasser ces démons qui partiront dans des pourceaux et qui iront tomber dans un précipice dans la mer. Mais regardez ce qui se passe, et c'est surprenant. De la part des habitants de ce territoire. Regardez ce qui se passe, c'est très surprenant. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent. Première chose, lorsqu'on s'enfuit, c'est qu'on a peur. On ne s'enfuit pas parce qu'on est heureux. On s'enfuit parce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur. On court, on part vite, avec précipitation. Ils s'enfuient parce qu'ils ont peur. Ensuite, ils répandent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens sont allés voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme qui était, de qui étaient sortis les démons. Ils trouvent cet homme assis, vêtu, dans son bon sens. On aurait pu s'attendre à ce qu'il se réjouisse, à ce qu'il soit heureux et à ce qu'il puisse louer Dieu et de dire « Mais gloire à Dieu !» pour notre ami, notre frère, celui qui était lié par les démons depuis tant de temps. et pour qui nous ne pouvions rien faire. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Au contraire, ils furent saisis de frayeur. C'est surprenant. Ils ne se réjouissent pas de voir cet homme délivré, dans son bon sens, vêtu, alors qu'il était nu. On l'entendait crier tous les soirs dans les sépulcres. Il faisait peur à tout le monde. Et on peut penser qu'ils pouvaient considérer même que c'était comme une maladie contagieuse qui aurait pu se répandre sur leur territoire, que ça aurait pu arriver à d'autres, d'entre eux. Et quand ils trouvent cet homme délivré par Jésus, ils sont effrayés. Ils ne donnent pas gloire à Dieu. Ils ne se réjouissent pas. Et ils vont plus loin. Quand ceux qui étaient là ont vu tout ce qui s'est passé et ont raconté tout ce qui s'est passé, il est dit au verset 37, c'est tous les habitants de ce territoire, tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. C'est surprenant, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça surprenant. Ils vont voir Jésus, ils vont le supplier surtout. Va-t'en, 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 ne reste pas sur notre territoire. N'est-ce pas ce que nous faisons des fois avec Dieu? Quand Dieu veut faire une chose nouvelle dans nos vies, quand Dieu veut nous emmener plus loin, quelquefois nous agissons comme ces hommes. Là où ils devaient se réjouir de voir la souffrance qui a été arrêtée dans la vie de cet homme, ils ne se réjouissent pas et ils demandent même à Dieu de s'éloigner d'eux. Nous ne voulons pas. Il y a des chrétiens qui font ça. Quand Dieu vient pour les conduire plus loin, faire une chose nouvelle dans leur vie, ils disent à Dieu, non, 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 oh là là, moi, je ne veux pas. Parce qu'ils ont peur. Le surnaturel fait peur aux enfants de Dieu, à certains enfants de Dieu. Pourtant, nous croyons dans un Dieu qui est esprit et qui a créé tout ce que nous connaissons. Le Dieu du surnaturel, des prodiges et des miracles. Mais quand il veut se manifester de cette manière, certains chrétiens ont peur. Je me rappelle un frère avec qui on priait aux Antilles. Et on allait au bord de la mer des fois, ou à la forêt. Et là, on était au bord de la mer. C'était le soir, il y avait des étoiles et tout. Et à un moment donné, on prie. Et c'était un frère qui était connu pour sa ferveur spirituelle. Et il priait. Et puis à un moment donné, dans le temps de prière où on était là, on lève les yeux vers le ciel. Et lui, il lève les yeux aussi. Et à un moment donné, il commence à... Pourquoi? Parce qu'il a cru dans une manifestation angélique. Il a vu une étoile qui brillait. Il a cru qu'il y avait là une manifestation spirituelle, surnaturelle, angélique ou autre. Alors que c'était un frère dans la foi, il a commencé à paniquer. On a peur. On a peur du surnaturel. C'est pour cela que vous voyez malheureusement que beaucoup de communautés ont fait taire l'Esprit de Dieu. On étouffe le Saint-Esprit. On étouffe. On arrête l'Esprit de Dieu, les dons spirituels, les manifestations spirituelles. On les arrête, on les étouffe. On a peur des choses nouvelles. Du Dieu souverain qui est un Dieu qui est dans la dimension spirituelle et surnaturelle. Amen. Dieu veut faire une chose nouvelle. Bannissons la crainte dans notre cœur. Faisons confiance à Dieu. Veillons sous les débordements, c'est vrai. Mais laissons Dieu faire ce qu'il veut faire dans son Église. Et c'est ce qui leur est arrivé, vous savez pourquoi? Ils ont considéré que la puissance qui avait délivré cet homme, ils avaient déjà vu que la puissance qui retenait cet homme était forte et qu'ils ne pouvaient rien contre cette puissance. Et ils ont vu qu'il y a une puissance encore plus forte, plus élevée que celle qui retenait cet homme captif. Et au lieu de considérer que c'était la délivrance et le secours qui venaient à eux, ça leur a fait peur. Ils se sont dit, mais cette puissance qui est encore plus forte que celle qui retenait cet homme captif, qu'est-ce qu'elle pourrait nous faire? Cette puissance est encore au-dessus de celle qui faisait du mal à cet homme. Nous n'en voulons pas. Mais cette puissance-là aussi, elle va nous faire du mal. Va-t'en, va-t'en Jésus, ne reste pas sur notre territoire. Voyez, c'est ça qui arrive. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'a pas une relation intime avec Dieu, quand on n'a pas la révélation de Dieu, on rejette même Dieu dans ses œuvres. Ils ont dit à Jésus, va-t'en. La chose nouvelle que Jésus était venu faire sur leur territoire, ils n'en ont pas voulu. Dieu veut faire une chose nouvelle. C'est dès maintenant, là, dans son Église. Et ça commence dans la vie de chaque chrétien. Une chose nouvelle. Je termine vraiment. Luc 19, quand Jésus a visité Jérusalem, il dit effectivement, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si trois aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Et je lis plus loin, il dit effectivement, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu, disait-il, à Jérusalem, parce qu'il a été rejeté au sein de son peuple. Tu n'as pas connu le temps où Jésus t'a visité. Il voulait faire une chose nouvelle dans ta vie. Il voulait te faire passer d'une étape à une autre supérieure pour que tu puisses voir sa gloire autrement dans ta vie. Tu as stagné et tu dis, mais depuis que j'ai reçu Christ, je ne vois rien qui change dans ma vie. Mais quand Jésus t'a visité pour t'emmener plus loin, tu n'as pas voulu. Veux-tu ce matin que Jésus-Christ fasse une chose nouvelle dans ta vie? Si tu le veux, laisse-le faire comme lui, il veut. Parce que notre problème, c'est que nous disons à Jésus, oui, je veux que tu fasses une chose nouvelle dans ma vie, mais comme moi, je veux. Mais ça ne peut pas marcher. C'est Dieu qui nous a créés. Jésus doit marcher devant et nous le suivons. À un moment donné, il était dit, effectivement, quand Jésus leur a annoncé qu'il allait passer par cette épreuve de la crucifixion, ils étaient en train de suivre Jésus. Jésus marchait devant et eux, ils marchaient derrière. Comme Jésus leur avait annoncé certaines choses qui allaient se passer, il est dit qu'ils marchaient derrière Jésus, mais dans la crainte. Ils avaient peur. C'était une étape obligatoire. Si Jésus n'était pas passé par ce chemin pour que nous soyons là ce matin, nous n'aurions pas l'espérance de la vie éternelle. Et quand Jésus veut nous faire passer par certains chemins pour nous emmener plus loin, nous disons, Seigneur, non, là, c'est bon. Je crois, mais, là, je vais m'arrêter là. Ils ont dit à Jésus, va-t'en. Ésaïe 43, 19, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Sommes-nous prêts à accepter ces choses nouvelles que Dieu veut faire dans nos vies pour nous emmener plus loin? Christ roi, Jésus notre sauveur et notre Dieu, c'est toi qui es souverain, qui a tout accompli et vaincu en notre faveur toutes les puissances des ténèbres. Elles ont été livrées publiquement en spectacle. En sorte que si on te fait confiance, c'est nous qui sommes et demeurerons dans la victoire en ton nom de gloire, Jésus-Christ. Seigneur, fortifie-nous, encourage-nous, relève-nous par ton esprit et fais toutes les choses nouvelles que tu veux faire dans nos vies, afin que ta gloire soit vue dans ton Église. Toute la gloire est à toi, Jésus-Christ. Toute la gloire.